à Olivier
Merci.
Gagliardini, donc de l'IGE, donc qui va nous parler donc des risques, donc de l'évolution des glaciers et des risques associés.
Oui, est-ce que vous m'entendez?
Oui, très bien. Et
Est-ce
on
que
voit
vous
aussi ta
voyez ma
présentation. Exactement.
diapo?
Tout est bon, c'est parfait, merci beaucoup.
Alors, donc bonjour à tous et à toutes. Donc je vais vous parler des glaciers dans un contexte de réchauffement climatique et l'implication que ça peut avoir sur le risque. Alors je vais essentiellement parler d'aléas, même si des fois je vais utiliser le mot risque pour aléas. Bon, j'essaierai de vous attirer, d'attirer votre attention là-dessus. Ce que je vais présenter, c'est des travaux essentiellement faits par mes collègues de l'IGE ou de l'INRAE, et principalement des travaux de thèse de Adrien Gilbert. Alors, contrairement à la présentation précédente, on n'a pas beaucoup de choses statistiques à montrer, parce qu'il n'y a pas tant d'événements que ça, notamment au niveau national, et heureusement. Je vais plus me focaliser sur des exemples concrets, des exemples précis, et encore plus particulièrement, je vais me focaliser sur deux cas particuliers. Alors, est-ce que j'arrive à passer? Voilà. Donc, avant de passer à ces deux cas particuliers, je vais un peu faire un inventaire de ce qu'on appelle les aléas d'origine glaciaire, en commençant par ceux qui sont liés proprement dit à la glace. Alors, de gauche à droite, là, sur cette slide, donc j'ai essayé de recenser un peu tous ces aléas potentiels qui ont une origine glaciaire. Alors le premier aléa auquel on peut penser, c'est la crue glaciaire, c'est-à-dire lorsque les conditions climatiques sont favorables à l'avancée des glaciers. Donc c'est assez peu probable que ça se produise dans un futur proche, même si, comme ici illustré avec le glacier du Taku en Alaska, hein, qui continue à avancer il y a encore assez peu, et là on voit qu'il est en train de manger la forêt qui est devant lui. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les chutes de Sérac. Donc c'est des glaciers sur des pentes assez raides, la chute de Sérac se forme à l'endroit d'une rupture de pente, et c'est quelque part un fonctionnement normal, hein, puisque comme le glacier de Tacona sur cette figure, il y a des chutes régulières de Sérac, hein, c'est un moyen pour le glacier de perdre de la masse, et qui est principalement dicté par une rupture de pente au niveau du socle rocheux du glacier. Alors ensuite, deux exemples d'aléas qui sont plus problématiques, hein, puisque et qui arrivent moins souvent. Donc c'est ce qu'on appelle les déstabilisations de langue glaciaire, donc qui peuvent arriver sur des glaciers, sur le front des glaciers, et sur des zones qui sont pas forcément très pentues. C'est souvent, comme dans ce cas illustré ici avec le glacier d'Alalin et l'événement de 1965, c'est souvent des événements qui sont en lien avec des conditions météo, des fortes pluies et beaucoup d'eau qui arrive à la base du glacier. Et enfin, dernier cas, c'est la rupture de glaciers suspendus, donc des glaciers qui sont sur des fortes pentes, qui sont ici et stables parce qu'ils sont froids, c'est-à-dire que leur base est froide et à une température négative, et qui, pour des raisons de changement de conditions à la base, soit de température, soit de présence d'eau, soit les deux combinés le plus souvent, vont s'effondrer, vont se rompre, et vont voir une grosse partie du glacier se détacher, hein, comme ici, sur cet exemple, le glacier d'Altel en 1895. Alors, ça c'était pour les aléas qui mettent vraiment en œuvre la glace, hein, où la glace est l'aléa principal. Mais les glaciers, c'est de la glace, donc c'est de l'eau gelée, et donc il y a souvent pas mal d'eau dans les glaciers. Et donc il y a beaucoup d'aléas qui potentiellement peuvent avoir une origine liée à la présence d'eau dans le glacier. Alors, on peut diviser ça en trois catégories. Donc, les lacs proglaciaires qui vont se former au front des glaciers et qui vont être bloqués par par une moraine frontale lors du retrait du glacier. Alors, ça peut être bloqué par une moraine, mais aussi par une partie de glacier, suivant les configurations. Donc, ici, comme un petit lac qui s'était formé au mont de Lance il y a quelques années. Ça peut être des lacs qui vont être à la surface du glacier, donc sur le glacier, alors bloqués, donc avec un barrage qui va être la glace d'un côté ici et puis de la roche de l'autre côté. Donc ça c'est l'exemple de Rochemelon hein, qui a été avec un lac qui a été vidangé dans les années 2005-2006. Et puis le troisième cas de présence d'eau dans un glacier, c'est quand l'eau elle est dans le glacier, sous le glacier, donc on la voit pas. Ça forme une poche d'eau, hein, c'est ce qu'on appelle les lacs intraglaciaires ou les poches d'eau, et donc avec potentiellement des gros volumes d'eau stockés dans le glacier, avec le risque que cette eau soit évacuée de façon brutale par rupture du barrage de glace. Alors, voilà un peu pour l'inventaire. Donc dans la présentation qui va suivre, je vais revenir sur le cas des poches d'eau, notamment avec le cas de Tête Rousse. Et puis je vais revenir aussi sur le cas des glaciers un peu suspendus, avec le cas du glacier de Tacona. Mais peut-être avant ça, je vais essayer de voir un peu quelles peuvent être les conséquences du réchauffement climatique, c'est-à-dire une augmentation de la température moyenne de l'air au niveau des glaciers, hein, quelles peuvent être les conséquences du réchauffement climatique sur les glaciers. Et donc, lorsque la température de l'air augmente, hein, a priori, il va y avoir, notamment lorsque ça augmente en été, il va y avoir plus de fonte, et donc il va y avoir une disponibilité plus importante de l'eau, donc de l'eau de fonte en surface. A priori, l'altitude de la ligne d'équilibre, c'est-à-dire la transition à la fin de l'été entre la partie qui est encore enneigée et la partie qui n'a plus de neige et dont la glace a fondu pendant l'été, donc cette altitude de la ligne d'équilibre va augmenter aussi. Et le volume du glacier et sa géométrie va diminuer et le front de ces glaciers va reculer. Et donc là, le front du glacier qui recule, ça va laisser de la place pour des lacs et des lacs qui potentiellement peuvent constituer un aléa important en cas de rupture de ces digues moréniques. Et donc, si l'air autour du glacier se réchauffe, est-ce que l'on peut dire que les glaciers se réchauffent? En fait, on va voir dans ma présentation un peu plus tard que ce n'est pas si simple. Mais avant ça, quelles sont les conséquences du fait qu'un glacier se réchauffe? Hein, donc un glacier, c'est de l'eau gelée, donc c'est une température forcément inférieure au point de fusion, donc on va dire 0 degré si on ne prend pas en compte les effets de la pression. Et donc si un glacier se réchauffe, donc sa rhéologie va évoluer, hein, notamment s'il est froid. Sa température va augmenter, donc sa viscosité va diminuer, donc il va s'écouler plus vite. Et s'il est tempéré, c'est-à-dire si sa glace est déjà à la température de fusion, donc à 0 degré, il va y avoir plus d'eau, plus de présence d'eau à l'intérieur, donc sa rhéologie aussi augmente, change, sa viscosité diminue et il s'écoule aussi potentiellement un peu plus vite. Alors, quand on passe, il y a des changements importants, hein, lorsqu'on passe d'une glace froide, donc inférieure strictement à 0 degré, à une glace tempérée, donc qui est exactement à 0 degré, c'est-à-dire au point de fusion. Il y a des points de bascule, hein, il y a des changements de comportement. Il y en a deux qui sont importants dans le comportement global des glaciers. Donc il y a une potentielle bascule, hein, lorsqu'on passe d'une glace froide imperméable à une glace tempérée, que le glacier va laisser circuler de l'eau dans cette glace tempérée. Hein, la glace froide va être imperméable, tandis que la glace tempérée va être perméable à l'eau, et donc ça va faciliter la circulation de l'eau à l'intérieur du glacier. La deuxième potentielle bascule, changement de comportement, hein, c'est ce qui, quand on regarde la base du glacier, c'est-à-dire l'interface entre le socle rocheux et le glacier lui-même. Donc lorsque l'on passe d'une base froide où la glace est collée au rocher, donc elle est vraiment solidaire du socle rocheux, il n'y a pas de glissement sur le socle rocheux. Et donc lorsqu'on passe d'une base froide à une base tempérée, on va avoir le glacier qui va se mettre à glisser sur son socle rocheux et donc qui va du coup aussi accélérer. Et donc potentiellement, hein, si on analyse un peu ces trois types de changements qui peuvent se produire lorsque le glacier se réchauffe, on pourrait dire est-ce que le risque augmente ou est-ce que l'aléa augmente? Et donc on va voir encore une fois que c'est pas si simple. Et donc pour étudier, pour répondre à cette question du réchauffement des glaciers, de l'implication que ça a sur le risque d'origine glaciaire, on va s'intéresser à deux glaciers qui sont assez proches, hein, puisqu'ils sont pas, ils sont distants d'une arête, on va dire, dans la Dubuté. Donc ça va être le glacier de Tacona et le glacier de Tête Rousse, donc tous les deux situés dans la vallée du Mont Blanc, proche du Mont Blanc. Et donc je vais commencer, hein, par faire une petite comparaison de ces deux glaciers, donc ils sont très proches mais finalement très très différents. Donc le glacier de Tacona, c'est un glacier qui a un très grand bassin d'accumulation, donc la glace qui arrive à Tacona provient d'altitudes très élevées, du dôme du Goûter, donc à plus de 4000 mètres. C'est un glacier qui s'écoule relativement vite, hein, avec des vitesses potentiellement de plus de 50 mètres par an, ce qui est relativement élevé pour les glaciers alpins. Et c'est un glacier qui est froid, donc sa température est strictement, a priori, inférieure à 0 degré, donc de moins 8, moins 7 degrés, ça va dépendre des endroits, hein, c'est hétérogène au sein du glacier. Et le type d'aléa que l'on va rencontrer, alors ce glacier, il est très connu pour ses chutes de Sérac, hein, c'est ce glacier que j'ai utilisé pour illustrer l'aléa chute de Sérac. Un deuxième aléa qui est à prendre en compte et dont je vais plus parler finalement aujourd'hui, c'est qu'il est en partie suspendu. Et donc, s'il se réchauffait, il pourrait devenir instable. On va voir ça un peu dans la suite. Donc, le deuxième glacier, c'est le glacier de Tête Rousse. Donc, c'est un tout petit glacier dont le haut culmine à 3300 mètres, hein, donc qui reçoit des avalanches du couloir des couloirs du Goûter. Mais donc, il y a un petit glacier qui va entre 3100 et 3300 mètres, qui s'écoule très peu, hein, il est quasiment plat, donc c'est des vitesses qui sont plus petites que 1 mètre par an. C'est un glacier, si on regarde son régime thermique, qui est polythermal, c'est-à-dire qu'il y a des zones qui sont froides et il y a des zones qui sont tempérées. Donc je vais revenir là-dessus dans la suite. Et c'est un glacier, si on regarde en termes d'aléas concernant ce glacier, c'est un glacier dans lequel on a observé la présence de poches d'eau, au moins deux, donc une en 1892, je vais revenir dessus, et puis une plus récemment en 2010. Donc je vais commencer par présenter un peu plus en détail maintenant les études que l'on a menées sur le glacier suspendu de Tacona, puis après je parlerai du glacier de Tête Rousse. Mais avant ça, je voulais dire quelques mots sur les outils qu'on utilise en glaciologie pour, d'une façon générale, quel que soit finalement le glacier, pour étudier ces glaciers et pour essayer de prévoir ou en tout cas d'évaluer le risque. Donc c'est une combinaison, hein, de deux outils principaux que sont l'instrumentation donc des glaciers par par la pose de différents capteurs dans le glacier, hein, de réalisation de forages, de mise en place de capteurs, notamment des capteurs pour mesurer la température, voire des capteurs pour mesurer la déformation de la glace. Ensuite, c'est pas mal de mesures de surface par drone, par lidar, pour mesurer les modèles numériques de terrain, donc l'altitude de la surface, mais aussi du socle avec des radars. Voilà. Et on peut aussi mettre des balises pour mesurer les vitesses ou utiliser des images satellitaires pour mesurer les vitesses. Donc on essaie de caractériser un peu le comportement du glacier en temps normal, c'est-à-dire avant Aléa. Et ça, on est obligé, parce qu'il y a des choses que l'on ne peut pas atteindre, on est obligé de le combiner avec de la modélisation numérique physique, donc des modèles qui couplent l'écoulement du glacier, donc qui sont capables de calculer les vitesses d'écoulement du glacier, mais aussi comment le glacier s'endommage, prendre en compte la rhéologie du névé, prendre en compte la thermique dans le glacier, savoir où est-ce qu'il y a de la fonte, où est-ce qu'il y a du regel. Donc des modèles assez complexes qui couplent un peu tous ces phénomènes physiques qui vont gouverner l'apparence, l'occurrence d'un aléa. Et donc on utilise bien sûr toutes les mesures pour calibrer et valider le modèle. Hein, c'est illustré ici, je vais revenir sur ces images un peu plus tard. Et donc les données du passé hein, nous permettent de calibrer le modèle et de les valider, et ce qui permet ensuite d'utiliser ces modèles pour essayer de voir comment ça va évoluer dans le futur, et donc comment la température, par exemple, va évoluer dans le futur au sein du glacier pour différents scénarios climatiques. Et ça permet d'identifier les processus qui sont les plus importants. Alors, si je reviens maintenant au glacier de Tacona, donc c'est un glacier qui est essentiellement connu par ses chutes régulières de séracs qui peuvent déclencher des très grosses avalanches. Hein. Et donc l'aléa principal que l'on connaît pour Tacona, en fait, c'est le risque combiné d'une chute de séracs pendant l'hiver avec un fort manteau. Un fort couvert neigeux et qui produit derrière une grosse avalanche. Et donc, Tacona produit quasiment, dans le couloir de Tacona, il y a quasiment une avalanche par an qui est enregistrée, avec beaucoup d'enjeux et donc beaucoup de moyens pour s'en protéger. Donc ici, c'est une vue des dents qui avaient été placé au début des années 2000 en bas du couloir et qui ont été partiellement détruites en 2006.
Je me permets d'intervenir, juste un petit point de vigilance pour avoir un temps de discussion à la fin d'une demi-heure. Il reste à peu près 5 minutes là.
D'accord, je suis beaucoup trop long. Ok, eh ben,
Non, c'est intéressant.
je vais accélérer. Et donc aujourd'hui, là, je vais pas vous parler du tout des chutes de sérac qui pour moi, quelque part, c'est un fonctionnement normal du glacier. Donc, tant que la chute de sérac, elle est au même endroit, donc c'est des gros volumes qui tombent, voilà, mais on sait que ça va tomber régulièrement. Donc, ce n'est pas tellement ça pour moi l'aléa du futur. L'aléa du futur, c'est le changement de température du glacier lui-même. Donc là, je vous montre des données. Donc, c'est les températures au sein du glacier à différents endroits, différents forages qui ont été réalisés au début des années 2000, 2005, 2008. Et donc, ce que l'on voit, c'est qu'on a des températures qui sont froides, hein, sauf vers la surface pour ce premier forage 1 là. Sinon, on a des températures qui sont en dessous de moins 4, moins 3, moins 4 degrés. Voilà. Mais ce qu'on s'aperçoit, c'est que on est moins 4, on n'est pas très loin potentiellement de 0 degré. Donc la question qu'on s'est posée pour ces études-là, c'est comment va évoluer cette température. Alors pour ça, ben, on a calé un modèle, hein, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, pour essayer de reproduire déjà cet état. Donc rapidement, ce modèle marche plutôt bien. Hein, c'est les courbes pleines ici. Alors les courbes pointillées, c'est des courbes, si on suppose qu'on est en équilibre. Manifestement, on n'est pas en équilibre puisque ça ne marche pas, mais si on reprend l'histoire du climat passé et qu'on essaie de reproduire les températures d'un glacier, on n'y arrive pas trop mal. Voilà. Et donc ça donne confiance dans le modèle, ce qui permet de prédire un peu ce qui va se passer dans le futur. Et donc ce que vous pouvez voir, c'est que si le climat se réchauffe, hein, donc ça c'est la température dans le glacier et aussi dans le socle rocheux, on est obligé de prendre en compte une couche plus importante que le glacier lui-même pour faire ses modélisations d'évolution de température. Hein, ce que l'on voit, c'est que le glacier se réchauffe. Quand le climat se réchauffe, et donc il y a potentiellement, hein, ce que je vous disais tout à l'heure, si on atteint le point de fusion, il y a potentiellement un risque de déstabilisation du front du glacier. Et donc on peut le voir sur ces images-là, où les zones grisées, c'est des zones où la base du glacier devient tempérée. Et donc toute la question, et c'est pour ça qu'on continue à étudier ce glacier, hein, c'est comment vont apparaître ces zones tempérées à la base du glacier. Si elles apparaissent de façon graduelle par le front, donc il y aura un retrait graduel du front dans le futur, voilà. Ou potentiellement, bah, si elles apparaissent de façon plus importante sur une plus grande zone, ou si elles apparaissent sur l'arrière du glacier, eh ben, potentiellement, on pourrait avoir une déstabilisation d'une partie plus grosse du glacier, donc bien plus grosse que la chute d'un sérac seul. Voilà. Alors, maintenant, je passe au glacier de Tête Rousse, donc j'ai plus beaucoup de temps, parce que j'étais trop lent. Mais je vais quand même rappeler le contexte, hein, c'est la plus grosse catastrophe, on va dire, d'origine glaciaire dans les Alpes, avec 175 morts en 1892, hein, 200 000 mètres cubes d'eau et de glace qui dévalent la vallée et qui viennent inonder, ensevelir les thermes de Saint-Gervais. Et puis la découverte en 2010 d'une nouvelle cavité de 60 000 mètres cubes qui a été drainé donc en 2010 artificiellement, on voit les travaux ici sur la photo, en 2010, 2011 et 2012. Et donc on va voir que la présence de cette poche d'eau est complètement gouvernée par le climat qu'il y a fait dans les années, dans les décennies passées. Hein, et notamment la présence ou pas de couverture neigeuse. Donc ici, c'est la couverture neigeuse sur le glacier, donc reconstruite. D'accord? Donc quand il n'y a pas de barre, ça veut dire que le glacier est entièrement couvert de neige à la fin de la période de fonte. D'accord? Donc il est complètement en accumulation. Et puis quand il y a des barres qui sont hautes, la ligne d'équilibre est assez haute dans le glacier. Et le fait qu'il y ait de la neige ou pas de neige sur le glacier change beaucoup de choses. Lorsque le glacier est couvert de neige ou de névé, l'eau qui fond pendant l'été, elle va pouvoir regeler en profondeur, elle va percoler dans le manteau neigeux et regeler en profondeur, et elle va ça va dégager énormément d'énergie et ça va réchauffer les couches en profondeur. Et lorsqu'il y a beaucoup de neige, pendant l'hiver, donc ici maintenant pendant l'hiver, ça va isoler le glacier du froid de l'hiver. Et donc ce qu'on peut voir sur le glacier de Tête Rousse qui est presque à la ligne d'équilibre à 3100-3300 mètres, c'est la ligne d'équilibre dans les Alpes. Et donc d'une année sur l'autre, son couvert neigeux peut changer énormément. Et donc c'est ce qu'on a montré dans cette étude sur le glacier Tête Rousse, hein, où ici encore on combine des mesures, les points bleus de température dans des forages et la modélisation, les traits noirs, hein, pour montrer que c'est en fait le fait qu'il y ait la cavité, c'est parce que le front du glacier se refroidit et donc constitue un barrage à l'eau. Donc le haut du glacier est tempéré, donc une température de 0 degré, l'eau s'infiltre. Se retrouve bloqué par ce front froid à l'aval du glacier. Et donc, cette étude a montré aussi que pour expliquer la présence, le champ de température que l'on observait en 2010, hein, il fallait que la cavité se soit formée dans les années 80. Donc on a découvert la cavité en 2010, mais en fait elle avait déjà plus d'une trentaine d'années. Et alors, donc ça permet de reconstruire les températures. Donc, si je veux juste conclure sur sur le futur, hein, donc si on a une évolution des températures par exemple en prenant un scénario de plus de 2 degrés et une accumulation constante, donc ça c'est le glacier en 2020. En quelques années, en fait, c'est assez rapide c'est un temps de retour assez rapide pour le temps de réaction assez rapide pour Tête Rousse. Donc lorsque le climat se réchauffe pour Tête Rousse, le glacier lui se refroidit parce qu'il y a moins de névée à sa surface, et donc le risque de la présence d'une poche d'eau ou de sa rupture finalement diminue, hein, parce que le front froid augmente, ou éventuellement même la poche d'eau disparaît. Voilà, donc mes conclusions, c'est que c'est assez complexe, et comme le disait Samuel dans son introduction, il faut vraiment regarder, je dirais même glacier par glacier, en ce qui concerne les glaciers, pour pouvoir savoir et estimer quel va être l'augmentation ou la diminution de l'aléa pour ce glacier dans un contexte de réchauffement climatique. Merci et désolé d'avoir été trop long.
Merci. Donc c'était vraiment intéressant de voir cette variabilité qui peut être très forte d'un site à un autre. Est-ce que dans tous les types d'aléas d'origine glaciaire, il y en a un qui mérite davantage d'attention qu'un autre? Et est-ce qu'il y a des aléas qui sont beaucoup plus difficiles à évaluer que d'autres?
Alors, typiquement, l'aléa de type poche d'eau, on nous pose souvent la question, est-ce qu'il y a d'autres glaciers en France ou ailleurs qui contiennent des poches d'eau? C'est une question très difficile à répondre, puisque sans vraiment aller sur le terrain, faire des mesures, radar, d'autres mesures qui ont été développées dans le cadre de Tête Rousse, des forages ou de l'ARMP, donc on n'est pas capable de. Il n'y a rien qui est visible en surface facilement. C'est-à-dire qu'il faut vraiment aller sur le terrain pour faire des mesures, pour détecter la présence de ces poches d'eau. Donc c'est vraiment le plus sournois, on va dire. Après, les lacs proglaciaires, finalement, ils sont assez visibles, hein, si on fait une surveillance visuelle, que ce soit par satellite ou par des visites régulières des fronts des glaciers, on va les voir, on peut surveiller leur niveau. Voilà, c'est relativement facile, je dirais, de suivre ça. Et ensuite, les ruptures, comme le Tacona, là, ce qu'on est en train d'étudier, il y a encore pas mal de processus qui ne sont pas connus, parce que là, je vous ai dit, voilà, quand on passe de la glace froide à la glace tempérée, le glacier se met à glisser, mais ce n'est pas une transition que l'on connaît très bien d'un point de vue processus. Il y a sûrement, à moins un degré, il pourrait commencer à se passer des choses en termes de reprise des contraintes à la base du glacier.
Et en termes de retrait glaciaire, est-ce qu'il n'y a pas un risque, le fait que certaines moraines soient mises à nu, qu'il y a davantage de matériaux solides qui soient à disposition en cas de pluie intense et qu'on ait des phénomènes de transport solide qui soient aggravés? Est-ce qu'on a pu le constater ou pas? Enfin,
Alors, ce qui est sûr, c'est qu'au front des glaciers, il y a énormément de matériaux mobilisables. Si vous, par exemple, si on regarde l'exemple de Tête Rousse 1892, au départ, il y a 100 000 mètres cubes d'eau et la même chose, le même volume de glace. Mais à la fin, la lave torrentielle qui arrive dans la vallée, elle fait 800 000 mètres cubes. Donc, c'est dans ces terrains de montagne, du fait de la présence de dépôts moréniques bon, il y a beaucoup de matériaux facilement mobilisables pour des laves torrentielles. Donc, effectivement, quand le glacier va se retirer, donc après, ce qui va créer l'aléa, c'est plus la présence d'un lac, par exemple, qui risque de se vidanger et de mobiliser facilement du terrain.
D'accord. Bon, je clôt la discussion pour avoir un temps général. Et merci encore pour la présentation. Donc, on va continuer en s'intéressant.